Les matins débutent avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le référendum d'initiative partagée contre la privatisation du groupe Aéroport de Paris a franchi une nouvelle étape. Il a été validé par le Conseil constitutionnel hier soir, nous dira Stéphane Robert.
La reconstruction de Notre-Dame de Paris est au menu des débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pendant que dans la capitale, des églises tombent en ruine.
Nous reviendrons sur le troisième jour du procès France Télécom pour harcèlement moral avec le témoignage accablant de l'inspectrice du travail chargée d'enquêter à l'époque sur les suicides du personnel.
Et puis Uber fait son entrée à Wall Street aujourd'hui dans un contexte de grandes difficultés pour la plateforme numérique.
Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, on évoquera le statut de fonctionnaire. S'agit-il d'un privilège ou d'une garantie d'indépendance? On posera la question à Marc-Olivier Baruc, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.
Ça n'est qu'une étape dans ce qui s'annonce comme un long parcours d'obstacles, mais une étape franchie et qui a fait perdre au titre Aéroport de Paris 3,5% en bourse hier soir. Le Conseil constitutionnel a validé le référendum d'initiative partagée, le RIP, proposé par les parlementaires pour empêcher la privatisation du groupe ADP, donc privatisation pourtant décidée par le gouvernement et votée par la majorité. Prochaine étape, la procédure doit recueillir les signatures de 10% du corps électoral, soit 4 700 000 Français. Les précisions de Stéphane Robert.
On pensait que jamais cette procédure ne pourrait être mise en œuvre. Les conditions paraissaient beaucoup trop difficiles à réunir. Finalement, une première étape a été franchie le mois dernier. Il fallait l'aval de 185 parlementaires. La droite et la gauche réunies ont recueilli 248 signatures. Ensuite, les députés ont sollicité des constitutionnalistes, ce qui a permis au texte de franchir la deuxième étape. Le Conseil constitutionnel l'a validé hier après-midi. Ce texte affirme que l'exploitation des aérodromes de Paris doit rester un service public national. Maintenant, c'est au ministère de l'Intérieur d'organiser une pétition. Il a un mois pour le faire. Cette pétition, pour que la procédure suive son cours, doit durer 9 mois et elle doit recueillir un peu plus de 4 700 000 signatures, soit 10% du corps électoral. Cette troisième étape est évidemment la plus périlleuse. Mobiliser autant de Français avant le déclenchement du référendum paraît assez difficile à réaliser, d'autant que chacun devra décliner son identité auprès des autorités, ce qui pourra occasionner des réticences. Mais on sait cependant que cette privatisation génère beaucoup d'incompréhension, car elle rappelle la privatisation des autoroutes en 2005, perçue comme une très mauvaise affaire. Et puis un certain nombre de Français pourraient se saisir de cette question pour manifester leur opposition au pouvoir en place et à Emmanuel Macron. Car traditionnellement en France, on utilise les référendums, pas pour répondre à la question posée, mais à celui qui la pose.
Les députés vont se pencher à partir d'aujourd'hui sur un projet de loi exceptionnel près d'un mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Le texte propose notamment une souscription nationale, des avantages fiscaux pour les donateurs, mais les dispositions qui agacent le plus sont celles ayant trait à d'éventuelles dérogations aux règles en vigueur pour les monuments historiques. Sur ce sujet, les députés de l'opposition comptent bien donner du fil à retordre à la majorité comme ils l'ont fait la semaine dernière en commission. Les précisions de Catherine Du.
Mieux vaut réflexion que précipitation. C'est l'adage que les députés de droite comme de gauche ont opposé à Emmanuel Macron, pressé de voir Notre-Dame reconstruite d'ici 5 ans, soit en 2024, année des Jeux Olympiques de Paris. Pour réaliser les ambitions de l'exécutif, le projet de loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance et à déroger au besoin aux règles en matière de préservation du patrimoine, de construction, d'urbanisme, de commande publique. Et c'est ce point, l'article 9 du texte, qui a cristallisé le plus de critiques en commission. Des élus LR, centristes, socialistes et communistes ont tenté de le supprimer, en vain. Échec également des députés insoumis à faire adopter un haut degré d'exigence d'un point de vue environnemental ou social, avec un chantier qui n'impliquerait pas pour la reconstruction de la cathédrale de travailleurs détachés. Parmi les autres critiques du projet de loi, la création d'un établissement public chargé de concevoir et de coordonner les travaux de restauration de Notre-Dame. Pourquoi ne pas s'appuyer sur les structures déjà existantes? Le Centre des Monuments Nationaux n'a plus à prouver sa compétence, estiment les professionnels, tout comme l'OPIC, l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Le projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame est-il trop politique? C'est aussi un article à retrouver sur notre site franceculture.fr. Et alors que le monde politique s'active pour reconstruire Notre-Dame de Paris, plusieurs églises, plus petites certes, sont en péril, y compris dans la capitale. capitale, où depuis des années, des spécialistes du patrimoine réclament des fonds pour les restaurer. Depuis que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que la ville allait débloquer 50 millions d'euros pour Notre-Dame, un historien de l'art recense toutes les églises parisiennes qui tombent en ruine, faute de financement. Un reportage de Cécile de Kervas-Douet.
Nous sommes à Notre-Dame de Lorette, qui est une des églises en plus mauvais état, si on peut faire une hiérarchie, parce qu'en fait, il y en a beaucoup comme cela.
Didier Rickner est historien de l'art et fondateur de la revue La Tribune de l'Art. Depuis plusieurs semaines, il arpente les 96 lieux de culte qui appartiennent à la mairie de Paris et dénonce l'état du bâti, des façades, mais aussi des orgues, des sculptures et surtout des peintures. Comme à Notre-Dame de Lorette, véritable laboratoire de la peinture sous Louis-Philippe.
Vous voyez la coupole ? Vous verrez que celle-ci est en très mauvais état, que celle-ci a quasiment disparu.
À Notre-Dame de Lorette, 200 000 euros ont été débloqués pour l'orgue qui tombait en morceaux. Des échafaudages sont là, mais ils servent à tenir les murs de l'édifice qui menacent eux aussi de tomber. Preuve que le plan église de 80 millions d'euros sur 6 ans, débloqué par la mairie de Paris, est largement insuffisant. Didier Rickner.
C'est moins en euros constants que le premier mandat de Bertrand Delanoë. Et qu'est-ce qu'on fait souvent ? On fait ce qui se voit ou ce qui est dangereux. Et donc tout d'un coup, on découvre que Madame Hidalgo, qui n'a pas suffisamment d'argent pour mettre plus, a 50 millions d'euros qu'elle va donner à Notre-Dame de Paris. C'est uniquement de la communication. N'oublions pas qu'il y a les élections très bientôt.
La mairie de Paris se justifie en répondant que Notre-Dame fait partie de l'histoire de la ville et qu'elle se doit d'aider à sa reconstruction pour protéger les commerçants alentours. Surtout, elle assure que rénover les églises parisiennes, c'est un travail de très longue haleine. Karen Taïeb est adjointe à la maire de Paris, chargée du patrimoine.
D'abord, il y a une question de coût, bien entendu. La Trinité, un seul massif d'entrée, c'est plusieurs années d'abord de travaux et un coût de 23 millions d'euros. Donc, c'est effectivement un coût. Évidemment, ça pourra augmenter avec le temps. On va aussi vers l'utilisation de subsides qui vont venir du ministère de la Culture quand ce sont des monuments historiques, mais également faire appel aux mécènes. C'est de plus en plus le cas.
En attendant, l'une des priorités de la mairie de Paris est de rénover le parvis de Notre-Dame pour accueillir les 14 millions de visiteurs par an. La loi Notre-Dame pourrait, dans ce projet, lui permettent de s'affranchir des règles du patrimoine et de l'urbanisme.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Dans les matins, le procès fleuve et inédit de 8 anciens responsables de France Télécom pour harcèlement moral et complicité a continué hier au tribunal de Paris.
Avec le témoignage notamment de l'inspectrice du travail Sylvie Catala, en charge en 2009 de l'enquête sur la vague de suicides dans l'entreprise. Un témoignage accablant pour l'ancienne direction. Antoine Marette.
Sylvie Catala a une conviction, la méthode de management de France Télécom a produit du harcèlement moral. On a voulu pousser vers la sortie 22 000 salariés, mais sans payer le prix d'un plan social. L'inspectrice du travail montre du doigt le plan élaboré par la direction de France Télécom.
Ce plan ACTE, en fait, faisait porter aux salariés toute la responsabilité de son reclassement lorsque son poste était supprimé. Or, il était bien question de supprimer un certain nombre de postes et de les réorienter sur des métiers prioritaires. Donc, à partir du moment où on rentre dans un système comme ça, forcément, ça laisse la place libre à tout un tas de méthodes qui, en faisant pression sur les salariés, parce que ce n'est pas cadré, parce que les fonctions RH ont été diminuées, mènent au harcèlement moral.
Pour Sylvie Catala, ce plan ACTE est à l'origine de la crise à France Télécom, une crise face à laquelle la direction de l'entreprise n'a pas réagi suffisamment tôt.
Rien n'interdit à l'entreprise de supprimer 22 000 emplois et de faire bouger 10 000 personnes, ce n'est pas interdit par la loi. Mais il y a un cadre pour ça, et en tout cas ça ne doit pas conduire à altérer la santé des travailleurs. Parce qu'il y a aussi une obligation de maintien en bonne santé des travailleurs. C'est une obligation qui incombe à l'employeur.
Un employeur qui n'a pas entendu les nombreux signaux d'alerte, selon Sylvie Catala. Entre 2008 et 2010, 18 salariés de France Télécom se sont suicidés et 13 ont tenté de mettre fin à leur jour.
Antoine Marette, le patron de Facebook à l'Élysée ce matin, Mark Zuckerberg, doit discuter avec Emmanuel Macron de la lutte contre les contenus haineux sur Internet. Alors qu'une nouvelle voix s'est élevée hier et pas des moindres pour démanteler le géant du net, il s'agit de Chris Hughes, le cofondateur de Facebook. Il accuse Mark Zuckerberg d'avoir sacrifié la protection de la vie privée sur l'autel du clic. C'est l'entrée en bourse la plus attendue de l'année, son montant 80 milliards de dollars. Uber sera donc coté à Wall Street à partir d'aujourd'hui. Le leader mondial de la réservation de voitures sur plateforme a franchi là un pas décisif. Le géant perd pourtant de l'argent. Il se voit évincé de plusieurs capitales. Son modèle social est régulièrement critiqué. Il y a quelques jours, ses chauffeurs organisaient un mouvement de grève partout dans le monde. Bref, on a connu entrer en bourse plus sereine, les précisions de Loïc Loury.
Des appels à l'unité ici à San Francisco. Il y en avait une bonne dizaine ce mercredi aux États-Unis. Les chauffeurs de la firme manifestaient avant une entrée en bourse difficile à avaler. Un témoignage recueilli pour le Time.
On évalue la compagnie à quoi ? 90 milliards de dollars ? Alors regardez ce gros chiffre et posez-vous la question. D'où vient cet argent ? Il vient des chauffeurs.
À 45 dollars l'action, Uber a revu ses prétentions boursières à la baisse avec plusieurs risques identifiés. La concurrence de Lyft, les restrictions imposées par plusieurs grandes villes et donc la grogne de ces chauffeurs toujours plus mal payés. À cela pourraient s'ajouter les attaques des politiques à l'image du très à gauche Bernie Sanders. Le démocrate vient de publier une vidéo.
Nos gains ont tellement diminué que les gens ne peuvent pas se payer une assurance maladie. Ils n'ont pas assez d'argent pour les produits de base dont ils ont besoin. La plupart travaillent 50, parfois 60 heures par semaine.
Mais Uber ne devrait pas changer de stratégie. L'entreprise compte même encore réduire les incitations financières pour ses chauffeurs, 3 millions de personnes à travers le monde. La compagnie n'en a pas honte. Nous nous attendons, dit-elle simplement, à une hausse du mécontentement général.
L'Église catholique décidée à lutter contre les abus sexuels en son sein, c'est en tout cas ce que souhaite prouver le pape François en promulguant ce qu'on appelle un motu proprio, c'est-à-dire un changement dans la loi canonique. Cette nouvelle règle stipule que désormais obligation est faite au sein de l'Église de dénoncer les abus ou agressions et ça laisse plusieurs victimes sceptiques. Les précisions à Rome de Mathilde Imberti.
Première inquiétude des victimes, ces guichets que chaque diocèse devra ouvrir pour recueillir les plaintes. Comment s'assurer de l'impartialité de la prise en charge ? Se questionne José Murillo, victime au Chili du père Caradima. Il s'est retrouvé face à un mur quand il a voulu dénoncer.
L'obligation de la dénonciation, c'est un pas timide, mais c'est un pas important. Cependant, on ne peut pas rester de l'obligation seulement à l'Église catholique, aux officiels de l'Église. Il faut assurer aussi l'entrée de l'État ou d'une partie objective.
En effet, le texte du pape n'oblige pas à dénoncer les abus à la justice de chaque pays. Tout cela reste dans le microcosme de l'Église, regrette Peter Sanders, le Britannique qui a claqué la porte de la commission instituée par le pape en début de pontificat. Il pense que l'impunité va perdurer.
Si le pape prenait les choses en main, sa loi établirait qu'un auteur d'abus ne doit plus jamais exercer comme prêtre. Ensuite, il parle de l'obligation de dénoncer. Mais que se passe-t-il si on ne dénonce pas ? Il n'y a aucune sanction.
Le pape semble compter sur le sérieux de ces églises locales. Il leur impose de boucler les enquêtes en 90 jours et dans le cas des évêques négligents, de tenir informé Rome dans le mois qui suit leur saisine. Un bouleversement si ces mesures parviennent à être appliquées.
Mathilde Imberti, le temps de ce vendredi. Pour finir, une faible perturbation arrive par le sud-ouest et la façade atlantique. Ailleurs, journée variable. Les températures comptées cet après-midi au maximum de 14 à 23 degrés du nord au sud.